Europe 1.
C'est une honte, un sacrilège. Non mais voyez plutôt, Gefson a revêtu la pourpre royale réservée au monarque. Et son habit brodé de perles, il est plus fastueux que celui du roi, c'est insensé. Cet homme est si paré qu'il ressemble plus au dieu Mars qu'à un homme ordinaire. Et voilà qu'il prend place juste à côté du roi et de son épouse, comme s'il était leur égal. Mais c'est une abomination! À l'abbaye de Westminster, en ce 25 février 1308, jour de leur couronnement, le roi d'Angleterre, Édouard II, et son épouse, Isabelle de France, devraient être l'unique point de mire des invités. Et pourtant, c'est Gaveston, le favori du roi, qui attire tous les regards. Pendant toute la durée des réjouissances, Édouard se tient non pas auprès de sa toute jeune épouse, qu'il ignore royalement, mais près de lui. Pour l'occasion, le jeune monarque a fait réaliser des tapisseries à ses armes et à celles de Gaveston. Elles agrémentent la salle de banquet. Les armes d'Isabelle, qui vient d'être couronnée reine d'Angleterre, n'y figurent même pas. Enfin, Édouard va faire à Isabelle l'affront de donner à son favori tous les joyaux et parures qui lui ont été offerts pour son mariage par le roi de France Philippe IV, alors que chacun s'attendait à ce qu'il en fasse cadeau à la reine, son épouse. Bref, ce jour-là, barons anglais et dignitaires français manquent s'étouffer d'indignation. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Au cours de l'histoire de France, il est arrivé que des mariages royaux soient de monumentales erreurs de casting lourdes de conséquences. Celles dont fut victime Isabelle de France, fille unique de Philippe le Bel et sœur de trois rois de France successifs, fut sans doute l'une des plus spectaculaires. C'est ce triste mariage entre Isabelle de France et Édouard, un roi d'Angleterre et mari qui lui préférait la compagnie de ses favoris, que je vais vous raconter dans ce nouveau récit en deux parties. Isabelle de France, fille unique de Philippe IV dit le Bel, n'a pas 13 ans lorsqu'elle épouse le 25 janvier 1308 à Boulogne-sur-Mer le roi d'Angleterre, Édouard II, jeune monarque de 24 ans, qui a succédé à son père moins d'un an auparavant. En quoi ce mariage constitue-t-il une erreur de casting, me direz-vous? Peut-être dans leur différence d'âge? Pas du tout. À cette époque, l'âge du mariage est de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons. En fait, le mariage d'Isabelle et Édouard aurait pu être tout à fait harmonieux si seulement Édouard n'avait pas montré davantage d'intérêt pour ses favoris que pour sa jeune épouse. Les historiens s'accordent en effet à penser qu'Édouard II eut une nette préférence pour les hommes, même s'il eut 4 enfants d'Isabelle pour d'évidentes raisons dynastiques. Hâtons-nous de préciser ici qu'au Moyen-Âge, les manifestations de tendresse entre personnes de même sexe ne sont pas considérées comme particulièrement choquantes. Certains chroniqueurs du XIIe siècle parlent bien d'amour entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Ils rapportent qu'ils auraient partagé la même couche lorsqu'ils participèrent ensemble à la Troisième Croisade fin 1190. À ceux qui se sont empressés de voir là le signe d'une relation homosexuelle entre les deux monarques, l'historien médiéviste Jean Flory, spécialiste de la chevalerie, rétorque qu'une telle pratique n'avait pas du tout la connotation sensuelle qu'on peut y déceler aujourd'hui. Aux yeux d'un chrétien du Moyen-Âge, ce qui est en revanche considéré comme le péché des péchés, c'est la pratique de la sodomie, délit impie et abominable. D'une manière générale, toutes les conduites sexuelles dites « contre nature » sont d'ailleurs considérées comme un défi à l'œuvre de Dieu et le Lévitique, texte biblique enseignant les préceptes moraux de la loi de Moïse, prévoit la mort pour quiconque aurait eu une union charnelle proscrite. Or, il y a fort à croire, même si l'on ne dispose pas de preuves, que les relations d'Édouard II avec ses favoris relevaient davantage de la proscription du Lévitique que de l'innocente camaraderie de chambrée de Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. C'est en tout cas l'avis de l'auteur anonyme de la Vita Eduardi Segundi, vie d'Édouard II, publiée en 1326. Je ne me rappelle pas avoir entendu dire qu'un homme en aimât autant un autre. Jonathan chérit David, Achille aima Patrocle, mais nous ne lisons pas qu'ils furent immodérés. Notre roi, lui, fut incapable de faveurs modérées, et pour Pierce s'oubliait lui-même. Et ainsi disait-on de Pierce qu'il était sorcier. Le père d'Édouard est un grand chef de guerre qui va chercher à transmettre à son fils son goût pour la chose militaire, alors que ce fils n'aime que la musique, la poésie et les travaux manuels. Édouard Ier est un patriarche obsédé par son armée, dominateur, inflexible et qui rudoie son fils dont il fait exiler le meilleur ami, en l'occurrence Pierre de Gavaston, alias Pierce Gaveston en anglais, jeune chevalier gascon qui appartenait à la suite du jeune prince. Ben, c'était pourtant le roi qui l'avait placé auprès de son fils, parce qu'il appréciait son adresse dans les tournois et pensait qu'il contribuerait à aguerrir cet enfant trop doux et trop pusillanime à son goût. Mais bientôt, estimant ces deux jeunes gens trop proches et lassés des privilèges exigés par son fils pour son favori, Édouard Ier renvoie Gaveston de sa cour. Ce renvoi est précédé d'une violente dispute au cours de laquelle le roi se rue sur son fils, lui arrache les cheveux partout et le roue de coups. Il s'ensuivra une brouille de plusieurs mois entre père et fils. Pour être certain de se débarrasser de l'indésirable Gaveston, Édouard Ier lui accorde une pension que celui-ci ne pourra toucher que lorsqu'il aura quitté l'Angleterre. Le roi exige en outre des deux amis qu'ils lui fassent le serment de ne jamais se revoir sans sa permission. Dans un tel contexte, la mort d'Édouard Ier, le 7 juillet 1307, survient comme une libération pour son fils. Il rappelle immédiatement son favori qu'il va couvrir de cadeaux somptueux et d'honneur, et auquel, à l'indignation générale de ses barons, il va attribuer le comté de Cornouailles, initialement destiné à son propre frère. Désormais, Édouard est roi, il est libre de mener sa vie comme il l'entend. Or, il est à ce point inféodé à son ami ou amant qu'il va aller jusqu'à lui confier la régence plutôt qu'à un prince ou un grand seigneur de ses proches, pendant que lui-même se rend en France pour y épouser Isabelle, 1308. En outre, il donne à Gaveston la main de sa propre nièce, fille de sa sœur Jeanne d'Acre, alors que le rang médiocre de ce jeune homme n'aurait jamais dû lui permettre de nouer une alliance aussi noble. Mais pour Gaveston, rien n'est trop beau. Dès le début de son mariage, Isabelle, qui ne donnera naissance à son premier enfant qu'en novembre 1312, soit quasiment 5 ans après ses noces. Alors bien sûr, il faut rappeler qu'elle n'a alors que 18 ans tout de même. Eh bien, dès le début de ce mariage, elle se plaint dans ses lettres à son père de la conduite d'un époux qui la repousse au profit d'un favori auquel il ne peut rien refuser. Dans cette histoire, c'est elle la principale victime. Humiliée publiquement au sein d'une cour étrangère, sacrifiée sur l'autel de la diplomatie franco-anglaise. Alors qu'Isabelle est non seulement fort intelligente, mais elle est aussi l'une des plus belles femmes de son temps. Mince, pâle, probablement blonde, ressemblant beaucoup à son père Philippe le Bel. Même son mari d'ailleurs, qui s'intéresse davantage à son favori qu'à elle, la surnomme Isabella the Fair, la belle Isabelle. Elle a tout pour inspirer respect et amour. Mais son mariage mal assorti semble bien devoir la condamner à jamais à être privée de l'un comme de l'autre. Bien sûr, dès la première minute de cette union, elle se met à détester cordialement Gaveston, ce qui ne peut que la rendre plus antipathique encore aux yeux de son mari. Rappelons l'humiliation publique qu'elle a endurée le jour du sacre. Bientôt, sur fond de nouveaux conflits avec les Écossais, les grands barons, excédés de l'influence de Gaveston sur le roi et jaloux des privilèges exorbitants dont il jouit, exigent son bannissement. Influençable, velléitaire, Édouard II commence par céder pour éviter un conflit armé avec ses barons. Gaveston quitte l'Angleterre. Mais son exil ne durera que 2 mois. Édouard ne peut se passer de lui. Il le rappelle et le restaure dans toutes ses possessions. Trop sûr de lui, Gaveston rentre triomphant, fanfaronnant et poussant l'insolence jusqu'à affubler de surnoms ridicules tous les grands seigneurs de la cour. Monsieur Pense Crevé, fils de pute, le Pecnot. Des sobriquets plus insultants les uns que les autres. Cette fois, la coupe est pleine. Gaveston va être contraint à un troisième exil qui sera le dernier. La fine fleur de la chevalerie anglaise lui étant maintenant hostile, il n'existe plus pour lui aucun endroit sûr dans le pays. Le 19 juin 1312, il est arrêté, passé au fil de l'épée, autant dire embroché, puis décapité. Les dominicains d'Oxford l'embaument et recousent sa tête. La douleur d'Édouard est indescriptible. Au-delà du désespoir, il s'agrippe au corps de son ami. Il refuse de le quitter des jours durant. Et l'on devra finalement l'arracher de force à ce cadavre. Il va refuser plus de 3 ans que la dépouille, bon, fort heureusement embaumée, mais que la dépouille de son ami soit mise en terre. Le roi pleura sur Pierce comme pleure un père sur son fils, car plus grand est l'amour, plus grand est le chagrin. Mais retrouvons Isabelle de France. En Angleterre, bon, elle n'est pas totalement coupée de ses racines, de sa famille ou de sa langue natale, puisque la reine douairière Marguerite, l'épouse du défunt roi Édouard Ier, et sa tante, ses jeunes beaux-frères Thomas de Brotherton et Edmond de Woodstock sont donc aussi ses cousins. Et le plus puissant seigneur du royaume, le comte de Lancastre, est son oncle maternel. Mais cet entourage affectionné ne saurait compenser l'indifférence d'un mari qui ne fait des efforts vis-à-vis d'elle que pour que son entourage accepte la présence de Gaveston. Dans Les Rois maudits, Maurice Druon montre bien comment Isabelle, qu'il qualifie dans son roman de « Louve de France », souveraine ayant accepté avec dignité une situation ô combien difficile, fut indignée lorsqu'elle découvrit que ses belles-sœurs trompaient leurs époux à la tour de Nesle. Précisons au passage que ce qualificatif de Louve de France imaginé par Maurice Druon ne fut jamais donné à Isabelle par ses contemporains. Ses frères, justement. Alors il y a Louis l'aîné qui deviendra roi sous le nom de Louis le Hutin. Louis le Hutin, autant dire la forte tête, l'entêté. Bon, ça n'est pas un mari très facile, très agréable pour son épouse Marguerite de Bourgogne. Ils sont alors mariés depuis 8 ans. Ensuite, nous avons Charles, marié à Blanche d'Artois depuis 11 ans. Lui, il est un petit peu raide, un petit peu falot. Mais enfin, au moins Marguerite et Blanche ont-elles eu la chance d'être mariées à des hommes aimant la compagnie des dames. Isabelle, elle, n'a pas eu cette chance, et pourtant sa conduite est irréprochable. Fin 1313, à Londres, Isabelle reconnaît à la ceinture des frères Gautier et Philippe Donnet des aumônières qu'elle a offertes à ses frères et à ses belles-sœurs plusieurs mois auparavant, lors de son voyage en France. Bon, une aumônière, c'est une bourse d'étoffe portée à la ceinture et contenant l'argent destiné à l'aumône, d'où son nom. Aussitôt, elle s'en ouvre à son père, le roi Philippe le Bel. Les bruits du roi sont mises sous surveillance et bientôt, on découvre que ses soupçons étaient fondés et que les belles filles du roi trompent leur mari avec les frères Donnet. Des 3 belles filles, la seule à ne pas avoir fauté est Jeanne d'Artois, épouse du frère numéro 3, Philippe. Elle faisait le guet pour les 2 autres et ne les a pas trahis, voilà tout. L'affaire éclate au grand jour en avril 1314. Les 2 chevaliers impliqués sont déclarés coupables de lèse-majesté et condamnés à mort. Le 19 avril 1314 à Pontoise, ils sont roués. Roués, c'est-à-dire attachés à une roue, puis battus à coups de lourdes barres de fer. Écorchés vifs, émasculés, recouverts de plomb soufré en ébullition, écartelés et enfin décapités, avant que leur corps ne soit pendu par les aisselles à des gibets. Les princesses Marguerite et Blanche sont jugées devant le Parlement de Paris et officiellement convaincues d'adultère. Elles sont rasées, vêtues de bure et condamnées à l'incarcération perpétuelle. Avant d'être enfermées au château Gaillard, elles doivent assister à l'exécution de leurs amants. Un an plus tard, Marguerite mourra, soit étranglée, soit de mauvais traitements dans sa prison. Blanche, quant à elle, restera 8 ans enfermée à Château-Gaillard, puis elle sera recluse dans un couvent, où elle mourra en 1326. Quant à elle, Jeanne de Bourgogne est déférée devant le Parlement, mais blanchie de l'accusation d'adultère, sans doute grâce à l'influence de son époux Philippe, qui l'aimait tendrement. D'abord recluse à Dourdan, elle sera une éphémère reine de France et son mari d'ailleurs lui offrira la tour de Nesle. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire consacré au mariage chaotique entre Isabelle de France et Édouard II d'Angleterre.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Bibliographie. Les Rois Maudits, roman de Maurice Druon, aux éditions Plon. Les Rois Maudits, l'enquête historique, par Colette Beaune et Éric Lenabour, 2005. La Guerre de Cent Ans, par Jean Favier, aux éditions Fayard, 1980. Un drame à la cour de Philippe le Bel. Les tragiques amours des princesses, par le duc de Levis-Mirepoix, Historia numéro 265, 1968.